La reconnaissance. La gratitude est un moyen très efficace d'éviter le ressentiment. Elle s'oppose diamétralement à l'égocentrisme et aux dispositions intérieures négatives dont nous avons parlé. Il s'agit de la possibilité de reconnaître les dons et les bienfaits obtenus. Cette vertu demande une aptitude à découvrir ce qu'il y a de positif dans notre vie et le percevoir comme un cadeau qui nous pousse à être reconnaissants. Elle est à l'opposé du ressentiment. Ressentiment et gratitude sont incompatibles puisque le ressentiment bloque la perception et l'expérience de la vie comme un don. Mon ressentiment me dit que je ne reçois jamais ce que je mérite. En revanche, celui qui n'attend rien, ne demande rien pour lui, se réjouit de ce qu'il reçoit et pense toujours que c'est trop. De plus, il éprouve le désir de correspondre, bien qu'il se sente souvent incapable de rendre dans la proportion de ce qu'il a reçu. Pollino Laurenti dit à ce sujet: lorsque quelqu'un se sent aimé des autres sans le mériter, il est logique qu'il pense que ses affects et sa vie sont un cadeau. La reconnaissance en découle inévitablement. Si l'on n'a rien de correct à donner en retour, on n'a plus qu'un choix possible. Payer de la même monnaie, remercier de ce cadeau de l'amour en offrant quelque chose de même nature, l'amour. Ce faisant, on ne tombera jamais dans le ressentiment. La gratitude, comme toute habitude, peut être acquise et développée grâce à la répétition d'actes de remerciement. En reconnaissant son fort intérieur qu'on est comblé de dons, en disant une action de grâce et en posant des actes dans la mesure du possible. Fort heureusement, on est donc en mesure de surmonter la tendance au ressentiment. Troisièmement, pardonner. Et après, excuser et pardonner. Si dans la rue on trébuche, on perd l'équilibre et on tombe, et qu'involontairement on entraîne quelqu'un d'autre dans sa chute, on ne peut que lui demander des excuses. Si ma victime voit que mon geste a été involontaire, elle m'excusera. Elle reconnaîtra que je n'y suis pour rien. En revanche, si ce passant, rentrant chez lui, se met à houspiller son épouse, il faudra que par la suite, il aille au-delà de la demande d'excuses. Il devra lui demander pardon parce qu'il a été coupable du tort provoqué. On excuse l'innocent, on pardonne au coupable. Excuser est un acte de justice si l'agresseur mérite qu'on reconnaisse qu'il n'est pas coupable. Il a droit à l'excuse alors que le pardon dépasse la stricte justice puisque le coupable ne mérite pas d'être pardonné. S'il l'est, c'est grâce à un acte d'amour, de miséricorde. Il est donc plus facile d'excuser que de pardonner. Lorsque l'on voit que quelqu'un n'est pas coupable, on n'a aucune résistance à l'excuser, parce qu'il est naturel de reconnaître son innocence. Par contre, lorsque l'offenseur est coupable de ses actes, on est poussé naturellement, par justice, à lui demander de prendre sa responsabilité et de payer les torts provoqués. Le pardon demande alors d'aller à l'encontre de la première réaction spontanée, de surmonter la tendance naturelle à ne s'en tenir qu'à ce qui est juste, en stricte justice, et tout surmonter par la miséricorde. Ce serait donc un non-sens de pardonner l'excusable, ce qui ne demande qu'une excuse. Ceci arrive lorsque dans la pratique on ne distingue pas l'excusable et le pardonnable. Il est fréquent dans la vie quotidienne que beaucoup d'actes apparemment inoffensifs soient pris pour des agressions coupables, alors qu'il n'en est rien, parce que l'intention n'y est pas. C'est ce qui se passe avec les omissions involontaires. Une bonne dose de réflexion et la volonté de se mettre à la place des autres permet de comprendre objectivement de tels actes ou omissions et de découvrir que souvent, il n'est pas nécessaire de pardonner. Il suffit d'excuser puisque l'agresseur présumé n'a agi que par erreur, ignorance ou simple distraction. Aussi l'offensé est-il soulagé de la lourde contrainte du pardon. Il peut y avoir des circonstances atténuantes qui réduisent le degré de culpabilité. Le père qui rentre fatigué après une lourde journée de travail et qui réagit violemment face à la musique trépidante qu'écoutent ses enfants, l'épouse qui ne reçoit pas son mari gentiment parce qu'elle est survoltée après une journée passée à régler de nombreuses affaires familiales. Il y a aussi des circonstances plus stables à considérer qui permettent de simplifier le pardon en le ramenant à la mesure de l'excusable. Les parents qui comprennent bien le tempérament de leurs enfants ou la crise qu'ils traversent ne sont pas surpris par leurs réactions. Et si elles deviennent violentes, ils les excusent sans avoir besoin de pardonner. Il ne s'agit certes pas de fermer les yeux à la réalité, mais de faire nettement la part des choses. En effet, l'excuse parfaite peut se passer du pardon. Mais si un acte est l'objet du pardon, une excuse est alors impossible. Lorsqu'on est vraiment réaliste, on devient vite objectif. On ne juge plus les gens froidement comme des ennemis potentiels, mais on les regarde avec amour pour découvrir toutes les circonstances atténuantes. Le pardon sera ainsi strictement réservé aux coupables. Miséricorde et pardon. La loi du talion prévalait dans l'Ancien Testament. Elle était inspirée par la justice, œil pour œil, dent pour dent. Le Christ va perfectionner la loi et introduire une modification fondamentale. Il rattachera la justice à la miséricorde et qui plus est, il soumettra la justice à l'amour, ce qui est terriblement révolutionnaire. Dès lors, les offenses devront être pardonnées parce que le pardon fait partie de l'amour. Il tient à préciser dès le départ qu'il ne demande pas un peu plus d'amour parce que son amour n'est pas juste un peu plus que la justice. Il veut que nous fassions par amour ce que la justice ne demande plus en empruntant la voie du pardon et de l'amour. La miséricorde que Jésus pratique et demande aux siens heurte son temps et tous les temps. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. L'exigence de cet amour dépasse les strictes possibilités humaines et pourtant Jésus propose aux siens un objectif sans limite. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, pour qu'ils aillent jusqu'au bout, mais en comptant sur le secours de Dieu. Qu'est-ce que pardonner ? Contrairement au ressentiment que provoquent certaines agressions, le pardon n'est pas un sentiment. Pardonner n'est pas ne plus rien sentir. D'aucuns pensent qu'ils sont incapables de pardonner certaines offenses parce qu'ils ne peuvent pas en effacer les effets. La plaie est toujours là, ainsi que la haine et la soif de vengeance. De ce fait, il peut y avoir des situations complexes dans le fort de la conscience, surtout lorsqu'on considère que Dieu attend que nous pardonnions pour nous pardonner à son tour. À court terme, au niveau de l'émotionnel, il peut sembler impossible de ne pas avoir de ressentiment. Cependant, si l'on admet que le pardon n'est pas au niveau du ressentiment parce qu'il est du domaine de la volonté, on voit déjà le bout du tunnel. L'employé qui a été injustement mis à pied, le conjoint qui subit l'infidélité de l'autre, les parents dont l'enfant a été kidnappé, en dépit du sentiment contraire qu'ils éprouvent, peuvent décider de pardonner parce que le pardon est un acte de la volonté et non pas une réaction émotionnelle. Saisir la différence entre sentir une émotion et prendre une décision est déjà un pas important. Souvent, on doit aller à l'encontre de ses sentiments. C'est ce qui arrive en fait lorsque notre volonté maîtrise nos émotions. Nous sommes découragés par un échec au travail. Au lieu de nous laisser aller, nous surmontons le choc et allons de l'avant jusqu'au bout. Quelqu'un nous a vexés et nous sommes portés à l'agresser. Mais nous décidons de nous maîtriser et de patienter. Nous sommes enclins à la paresse et malgré tout nous choisissons de travailler. Ces exemples illustrent la capacité de la volonté à maîtriser les sentiments. Ceci arrive aussi lorsque nous pardonnons malgré l'inertie de ne pas le faire qui nous tenaille. Le pardon est un acte de la volonté parce qu'il demande une décision. Quel est le contenu de cette décision ? Que décide-t-on lorsqu'on pardonne ? Lorsque je pardonne, je choisis d'effacer la dette morale que quelqu'un a contractée envers moi en m'offensant. Je le délivre de sa dette. Il ne s'agit évidemment pas de supprimer l'offense, de l'évacuer et de faire qu'elle n'ait jamais existé. Nous n'en avons pas le pouvoir. Seul Dieu peut effacer l'offense et faire que l'offenseur retourne à la case départ. Mais pour pardonner réellement, il faut souhaiter que l'autre soit totalement lavé de la mauvaise action qu'il a commise. De ce fait, pardonner implique que l'on demande à Dieu de pardonner, puisque la dette ne peut être effacée autrement. Cette façon de faire est radicale et a des effets positifs chez celui qui pardonne. Nous allons les passer en revue. Modifier les sentiments négatifs. La décision de solder la dette de l'offenseur est un acte d'amour et demande aussi une volonté d'éliminer les effets subjectifs que l'offense a déclenchés chez moi, comme la haine, le ressentiment, la soif de vengeance. Pardonner, c'est s'arrêter de haïr. C'est la définition de la miséricorde, vertu qui l'emporte sur la rancune, sur la haine justifiée, parce qu'elle dépasse la justice, sur le ressentiment, la soif de vengeance ou l'envie de châtier. Elle est la vertu qui pardonne, non pas en supprimant l'infraction ou l'offense, ce qui n'est pas à notre portée, mais en coupant court au ressentiment pour celui qui nous a offensés ou porté tort. Certes, nous l'avons déjà dit, cette décision n'élimine pas automatiquement les tendances émotionnelles, les sentiments découlant de l'agression, mais elle nous porte à ne pas les entretenir et à essayer de les enrayer petit à petit. L'évacuation de ces sentiments négatifs, provoqués par l'offense, peut être faite indirectement. Au lieu de les réprimer sans plus, donnons-leur un autre sens. Lorsque nous nous sentons blessés, par exemple, nous pouvons penser au tort que l'autre s'est infligé à lui-même en nous offensant et souffrir pour lui. Nous pouvons aussi demander à Dieu de l'aider à corriger son attitude, même si l'on est encore sous le choc. Autrement dit, il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Tout pardon demande le solde de la dette et implique ainsi celui qui octroie son pardon. Ce n'est pas un acte qui met de côté la subjectivité personnelle, comme s'il s'agissait d'une affaire que l'on règle froidement. Pardonner demande de rétablir la relation qu'on avait avec l'autre avant qu'il nous ait offensés. Il ne suffit pas de solder la dette tout en prenant du recul. Il faut qu'aucun des sentiments éveillés par l'offense n'assombrisse la relation d'amour qui existait auparavant. Lorsqu'on a été offensé par un ami, il ne s'agit pas de lui dire « je te pardonne », mais dorénavant gardons nos distances. Si l'on pardonne vraiment, les distances sautent d'elles-mêmes. Tout redevient comme avant. On s'accepte malgré les torts provoqués, même si la plaie est encore ouverte. L'amitié s'appuie sur cette réciprocité qui demande que les amis rectifient tous les deux. En effet, si l'offenseur campe sur ses positions, l'offensé aura beau pardonner, rien ne pourra être comme avant. Pardon et prudence. Lorsque celui qui a fait du mal s'acharne toujours, l'offensé a le droit d'entourer son pardon de toutes les mesures de prudence nécessaires. Il évitera ainsi que l'autre en vienne à ses fins. On peut toujours pardonner à celui qui commet un vol chez nous ou qui agresse quelqu'un de la famille. Mais on évitera qu'il revienne, à moins qu'il ne montre que ses intentions ont réellement changé. On a le droit de protéger les siens et de se soucier d'aider l'offenseur lui-même. En effet, on lui fait du bien puisque pardonner est un acte d'amour et que l'amour consiste à chercher le bien de l'autre. C'est en l'empêchant de faire ce qui lui porte tort qu'on l'aide vraiment. En lui interdisant de revenir chez nous, il ne peut plus mettre en pratique ses mauvais desseins et nous pouvons avoir une influence sur sa conduite. On doit donc procéder ainsi si l'on veut que le pardon aille jusqu'au bout. De même, très souvent, le bien de l'agresseur demande des actions punitives de la part de celui qui doit pardonner. Une réprimande, voire un châtiment, peuvent être compatibles avec le pardon si ce que l'on cherche est vraiment le bien de l'autre. Une maman peut énergiquement gronder une fille désobéissante tout en lui pardonnant, et elle peut la punir s'il le faut pour qu'elle se corrige. Là aussi, il faut souvent dépasser ses propres sentiments lorsqu'on cherche le bien de l'autre. Il est plus commode de pardonner en laissant tout passer que pardonner en prenant les mesures correctives qui s'imposent. Pardonner n'est pas nécessairement lever la punition ou effacer les dettes matérielles. Ceci peut souvent ne pas favoriser l'offenseur. Il faut par contre éliminer la dette morale qu'il a contractée. Il peut arriver qu'après avoir pardonné et renoncé à toute vengeance personnelle, nous gardions, sous couvert d'un sens de la justice, un sentiment subtil, le désir qu'un tiers, le destin ou Dieu lui-même, se venge à notre place. Cela reviendrait à dire à l'offenseur « Moi je te pardonne, mais à Dieu de voir ». Procéder de la sorte n'est pas pardonner. Le pardon humain ne consiste pas à faire transiter sa vengeance par la vengeance de Dieu. Décider de ne pas se venger parce que Dieu va le faire à notre place est un alibi qui porte directement atteinte à la pitié et à l'honneur. De ce fait, celui qui sait qu'au-delà du temps, Dieu a prévu un châtiment doit demander « Pardonne-nous tous ». Pour finir, pardonner est un acte radical de la volonté qui inclut un aspect objectif et un autre subjectif. D'un côté, la décision d'effacer la dette morale qui découle de l'offense, de rétablir la relation avec l'offenseur et chercher son bien, au cas par cas de l'autre, le combat pour évacuer les sentiments adverses provoqués par l'offense en les remplaçant par d'autres plus positifs.